Tout pour investir, le coach.
Le coach du Private Equity, aujourd'hui, c'est notre CGP, François-Xavier Seur. Rebonjour François-Xavier.
Rebonjour Lorraine.
Nous parlions d'actualité avec vous, on débattait de est-ce que l'entrée en bourse de CVC serait une bonne chose et qu'est-ce que ça voulait dire. C'était dans le cadre du talk Tout pour votre argent, il y a une vingtaine de minutes, à retrouver en podcast et en replay si le sujet vous intéresse. Mais je voudrais d'abord revenir sur cette volonté qu'on a ce matin de faire un lexique avec vous, un lexique du non-coté, parce que c'est vrai, on parle beaucoup en franglais et parfois et bien c'est bien de revenir à la traduction pour mieux comprendre les principes. Et je précise que cette citation de chronique a été soulevée par un de nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Quelqu'un qui m'a contacté sur mon site web, un de vos fidèles auditeurs depuis le début de la saison, pour tout vous dire, qui a été habitué à regarder Nicolas Doz et qui a pris l'habitude de déborder sur votre tranche.
Ah, voilà. Eh bien, on le salue. C'est quoi son nom ?
Jean-Jacques.
Eh bien, Jean-Jacques, on vous salue si vous nous écoutez. Le lexique franglais du non-coté, parce que le non-coté, c'est le private equity. Déjà, ça, c'est un mot en anglais.
Tout à fait. Private equity, donc actif privé, alors actif non-coté. En fait, est actif. En fait, pour définir le non-coté, on va le définir par ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire non-coté, donc non-coté en bourse, c'est ça que ça veut dire. Donc, on oppose le private equity et le public equity, donc le public equity, c'est tout ce qui est la bourse. Et on a tendance à parler du non-coté comme étant quelque chose d'uniforme, alors que c'est extrêmement différent, parce que vous pouvez avoir de l'action, vous pouvez avoir de l'obligation, et puis vous pouvez avoir des toutes petites sociétés, des sociétés immenses, extrêmement développées, rentables. Et puis vous pouvez avoir donc de l'entreprise, mais vous pouvez avoir aussi de l'hôtellerie, vous pouvez avoir des opérations de marchand de biens, des actifs réels. Donc c'est quelque chose
qui est de la tech.
De la tech et de la tech, de l'infrastructure, vous voyez, des choses qui sont extrêmement gourmandes en capitaux. Et ça, ce sont des choses que l'on retrouve beaucoup dans le private equity.
Ce qui nous intéresse, c'est que le private equity est un moteur de performance pour nos liquidités. Je le dis en langage un petit peu CGP, mais c'est-à-dire que vos clients viennent vous voir, bonjour, je voudrais me diversifier, j'aimerais bien mettre autre chose de l'argent ailleurs que sur un fonds euro, dont on parlera d'ailleurs dans une heure, par exemple en bourse, et là, c'est là où vous arrivez en expliquant ce que c'est que private equity. Parce qu'il faut expliquer, parce que le private equity, il n'est pas si populaire dans tous les sens du terme en France.
C'est très américain. C'est une culture très américaine. C'est en train de se démocratiser en Europe. Et c'est un actif qui, oui, va amener de la diversification. C'est un moteur de performance différent. Par contre, attention, le private equity et le non-coté, on renonce à la liquidité. Justement, c'est l'avantage du public equity, c'est l'avantage de la bourse. C'est que la bourse, demain, vous voulez sortir d'une grosse action, vous voulez sortir d'une société du CAC 40, vous en sortez en quelques secondes. Vous voulez sortir d'une obligation cotée, parce qu'on oublie aussi toute la partie obligataire.
Absolument.
Vous en sortez en quelques secondes. Vous voulez sortir d'une action ou d'une obligation non-cotée, vous ne sortez pas. Ou alors, vous trouvez un acheteur et vous trouverez un acheteur qui va vous le racheter avec une grosse décote. Ça, c'est ce qu'on appelle le secondaire.
Voilà. Attention, du coup, à cette disparition de liquidité. Mais bon, qui doit faire partie d'une stratégie ?
Et en contrepartie, normalement, si on renonce à la liquidité, on va chercher justement plus de rendement. Puisque si on accepte d'immobiliser ses liquidités pendant 3, 5, 10 ans, c'est qu'on va chercher justement plus de rentabilité, plus de potentiel. Mais cela dépend de ce sur quoi on investit, et cela va dépendre du moment de développement de la société dans laquelle on va investir.
Et c'est là où on va parler de différentes stratégies, parce qu'il y a différents niveaux d'entrée dans les entreprises non cotées, dans les entreprises non cotées. On parle franglais, parce qu'on va parler de venture capital, de grosse capital, et puis de LBO, décryptage.
Alors c'est le moment où il va falloir s'accrocher au transistor pour suivre, parce qu'effectivement, donc on a le venture capital, donc alors venture capital ou VC, vous retrouverez aussi le terme de VC, vous retrouverez le terme de capital innovation, vous retrouverez le terme de capital amorçage.
Tout ça c'est la même chose.
Tout ça c'est à peu près la même chose, c'est l'idée de rentrer au tout début d'une société, c'est-à-dire vous rentrez dans ce qu'on appelle les premiers tours de table. Les tours de table, quand on parle de tours de table, c'est vraiment l'idée d'aller chercher l'argent. Alors déjà, généralement au tout début, c'est ce qu'on appelle la love money, c'est aller chercher l'argent de la famille, son propre argent.
Généralement le perdre.
Voilà, l'argent de ses proches. Et ensuite, on va, quand on est donc ce qu'on appelle une pré-seed ou une seed, donc là, nouveau terme anglais, donc on est une graine ou avant la graine, donc on a ce terme de seed, pré-seed, ça veut dire qu'on est en train de structurer sa société, on est en train de lever lever des fonds justement avec des tours de table pour aller essayer de sortir son premier produit, aller chercher ses premiers clients, mettre en place une équipe, c'est extrêmement important, la mise en place de l'équipe. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, on va commencer donc à être justement cette seed qui éventuellement va rejoindre un incubateur ou un accélérateur. Donc, autre terme, alors là pour le coup franco-français, l'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où on a réussi à commencer à structurer sa société, eh bien on va pouvoir rejoindre cette petite institution qui est un incubateur ou un accélérateur qui va ouvrir un écosystème à un chef d'entreprise en contrepartie d'une partie de son capital qui va accompagner le chef d'entreprise à la start-up et qui en moyenne fait qu'il y a deux fois moins de faillites. Donc si jamais vous investissez dans une société, dans une start-up qui est dans un incubateur, vous avez deux fois moins de chances de la voir disparaître que si vous investissez dans une start-up qui n'est pas dans un incubateur ou un accélérateur.
Ouais, l'incubateur pour la petite graine, ça limite le risque. Alors on rappelle que l'investissement, qu'il soit coté ou non coté, est évidemment risqué.
Surtout là.
L'objectif du VC, l'objectif de l'amorçage, l'objectif du capital innovation, quel que soit le terme qu'on utilise en anglais ou en franglais, c'est que l'entreprise devienne une scale-up, autre terme en franglais. Bref, que l'entreprise dépasse le stade de la start-up. Et là, on rentre dans l'étape d'après.
Je suis une seed, je scale up pour devenir une série A. Voilà ce que peut vous dire votre neveu, nièce qui s'est lancé dans la start-up.
Globalement, l'ensemble de notre antenne parle de cette manière-là.
C'est pas faux, c'est pas faux. Et donc l'objectif, c'est de faire une série A. La série A, c'est la première levée de fonds institutionnelle, c'est-à-dire celle réalisée généralement avec un fonds d'investissement.
Ouais.
Et là, le fonds d'investissement, ça va être des levées de fonds beaucoup plus importantes. Là, on parlait de levées de fonds
qui en dessous d'un million.
Voilà, en dessous d'un million, c'est ça.
En France.
Quelques centaines de milliers d'euros, parfois d'ailleurs avec des fonds d'investissement déjà spécialisés sur ce type de voilà, des petits tickets, des tickets minoritaires où ils vont accompagner. Mais quand on va devenir une série A, on va lever des tickets donc de 1 million à partir de plusieurs millions d'euros derrière. Et ensuite, donc, on va faire série A et on peut avoir série B, série C, jusqu'à la série E ou F. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'univers du growth. Mmh. Donc, le growth capital ou le capital développement, en français, c'est la même chose. Donc, ça, on va dire, c'est la deuxième étape du développement de la société. Ce sont des sociétés, du coup, qui sont en accélération. Et là, on va être sur des sociétés qui sont en hyper-croissance, donc généralement plus de 50% de croissance du chiffre d'affaires par an, qui fonctionnent. Le business model est vérifié et on va aller lancer des nouveaux produits, racheter des concurrents, ouvrir des nouveaux pays. On parlait il y a quelques minutes sur votre antenne de Doctolib, de Conto, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont dans une hyper-croissance, ils vont racheter des concurrents et à un moment, quand il y aura, donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui, des rumeurs d'introduction en bourse, ils vont peut-être aussi arrêter d'aller faire cette hyper-croissance pour commencer à dégager un résultat. Et là, on va pouvoir envisager une introduction en bourse d'une façon sereine, de façon à rassurer les investisseurs et à montrer que ce n'est pas que de la croissance à outrance, c'est aussi une société qui est capable de dégager des résultats pour des investisseurs au capital. Donc ça, c'est le growth capital, qui a un niveau de risque plus faible donc que le venture capital.
Parce que les entreprises sont plus établies, on va dire.
On va dire que c'est le dernier tour de c'est la dernière levée de fonds avant d'être rentable. Normalement, c'est ça, le growth. C'est la dernière ou l'avant-dernière levée.
La dernière espérée.
Voilà. Parfois, on va trouver un bridge. Le bridge, c'est justement la petite, c'est pas une levée de fonds officielle, on va dire, c'est la petite levée de fonds qui permet de tenir jusqu'à la levée de fonds suivante. Autre terme anglais qu'on retrouve énormément.
Il y a un dernier stade ou un autre point d'entrée, on va dire, dans le non-coté. C'est ce qu'on appelle le LBO. Expliquez-nous cet acronyme, lui aussi, d'un mot anglais, de trois mots anglais.
Le buyout, en fait. Le buyout, le leverage buyout. Alors là, on est dans des sociétés où on n'est pas dans une logique de croissance, on est dans une logique de transmission. Donc soit ce sont des sociétés qu'on va racheter, donc on est au capital d'une société, on lui amène du capital et ça va lui permettre de racheter un concurrent. Ou alors un dirigeant de société qui s'en va et qui veut céder, par exemple, à une partie de son management. Ça s'appelle un MBO, un Management Buyout. Leverage Buyout, leverage, c'est lorsqu'on va mettre de l'effet de levier financier, donc on va mettre de la dette, c'est ce mécanisme que l'on utilise. Donc tout le secteur du buyout, c'est un secteur sur lequel vous avez généralement des sociétés qui sont rentables, qui peuvent être leaders sur leur marché, ça peut être des niches, ça peut être un système d'agrégation où on va créer des leaders, et c'est extrêmement efficace également, mais c'est vraiment un autre stade.
Voilà, le leverage buyout, ou en français, puisqu'on est dans une logique de lexique franco-anglais, ce qu'on appelle le capital transmission. Alors, question ultime pour conclure ce coaching, comment on investit dans nos côtés? Alors, je vous précise que tous les jeudis, nous travaillons sur ces sujets de private equity avec l'équipe de Tudigo, plateforme d'investissement, mais on a envie de parler de nos comptes titres, de notre PEA, de notre PEA PME avec vous.
Alors, tout dépend comment vous allez acheter ces titres. Donc, vous pouvez acheter, on a dit, de l'obligataire, vous pouvez acheter de l'action. Et en fait, soit vous connaissez en direct le chef d'entreprise ou l'équipe. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait aller voir la société et réaliser directement l'augmentation de capital auprès de la société. Et vous pouvez inscrire les titres dans un PEA, dans un PEA PME, dans un compte titre. Ça, c'est la solution, on va dire, la plus directe. Aussi, probablement, la plus risquée, d'ailleurs. Il faut faire extrêmement attention et, bien évidemment, diversifier extrêmement ses investissements. C'est important vraiment de n'investir que de petites sommes, une petite partie de son patrimoine, lorsqu'on est probablement sur du venture capital, dans le cas que je viens d'évoquer. Ensuite, vous allez avoir les fonds d'investissement. Donc, les fonds d'investissement généralement distribués par des intermédiaires financiers comme moi, où nous allons recommander des fonds et ça peut être des club deals, ça peut être donc à différents stades. Hein. On a parlé de stratégie buyout, on a parlé des stratégies de growth, on a parlé de stratégie de venture capital. Tout ça sont des fonds spécialisés qu'on va mettre dans une allocation et dans une stratégie patrimoniale. Et enfin, il y a les plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding qui permettent d'aller acheter, là aussi, des obligations et de l'action directement et qui réalisent un tri en amont. C'est ça qui est intéressant. En fait, on retrouve trois acteurs sur le marché. Généralement, on retrouve les fonds, les business angels. Alors, les business angels sont des personnes physiques qui généralement rentrent dans les sociétés et vont les accompagner. Donc, on est sur des investisseurs, mais des investisseurs qui vont accompagner les sociétés. Et les plateformes de crowdfunding. Il faut bien voir que généralement, les multiples et les valorisations ont tendance à augmenter. C'est-à-dire que généralement, le fonds pour une même société va rentrer à une valorisation plus faible qu'un business angel, et un business angel va rentrer à une valorisation plus faible qu'une plateforme de crowdfunding. Le fonds négocie assez fort et amène tout son savoir-faire. Le business angel aussi. L'investisseur de la plateforme de crowdfunding ne fait que mettre ses fonds.
Voilà, trois niveaux d'investissement. Beaucoup de clarté. Merci beaucoup, François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Merci pour cet éclairage, ces traductions. Un petit peu de rappel des bases. Parfois, ça ne fait pas de mal, ce non-côté dont on parle beaucoup dans cette émission. Parce que c'est important de parler de ces entreprises qui ne sont pas en bourse ou pas encore en bourse et dans lesquelles, eh bien, vous aussi, vous pouvez vous investir.